14h03 sur France Inter et vous retrouvez vos feuilletons radiophoniques des radios francophones publiques.
Alain Bachung est né à Paris le 1er décembre 1947. Il disparaîtra le 14 mars 2009, deux semaines après son ultime consécration aux victoires de la musique. Sur son chemin, il laissera Gabi et Joséphine orphelines, les vertiges d'une dame qui rêve, un mensonge nocturne, une petite entreprise, une fantaisie militaire, quelques imprudences, puis un dernier Lego. Voici la première des 10 émissions qui vous racontent l'histoire d'Alain Bachung.
Les radios francophones publiques présentent
Alain Bachung.
De l'aube à l'aube.
De l'aube à l'aube.
Alain Bachung, De l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golan avec, aujourd'hui,
Evelyne Ravida, cousine germaine d'Alain Bachung, fille de Claire.
Richard Kessler, fils de Joséphine Bachung et cousin d'Alain Bachung.
Robert Kessler, cousin Alain Bachung et fils de Joséphine Bachung Kessler.
Alain Jean, cousin d'Alain Bachung et fils de Marie-Madeleine Bachung, donc la fille de Oma et Opa.
Chantal Monterastelli, compagne puis épouse d'Alain Bachung.
Boris Bergman, parolier.
Jean Fauque, auteur de chansons.
André Georget, compositeur, musicien.
Marc Besse, auteur, a pu faire la biographie d'Alain Bachung de son vivant.
Bachung, Bachung. De l'aube à l'aube. France Inter.
Premier épisode, histoire de famille.
Bachung.
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 Ça vient d'où ça?
C'est d'origine germanique, je crois.
Ah ouais?
Ouais.
Archives Radio-Canada.
Ben, j'ai vécu en Alsace, mais c'est un peu compliqué. Germanique par alliance, mon beau-père, voilà. Donc c'est pas des vraies origines germaniques.
Je suis né tout seul près de la frontière, celle qui vous faisait si peur hier. Dans mon coin, on faisait pas de marmots, la cigogne faisait tout le boulot.
Lui, il était né à Paris, comme moi d'ailleurs.
Robert Kessler, cousin d'Alain Bachung.
Roger, son père, admettons son père, qui s'est marié avec Geneviève. La vie était difficile à Paris, ils avaient un petit logement. Roger travaillait dur. Il commençait de bonne heure, comme il est boulanger, et il finissait tard. Sa mère travaillait chez Renault, donc à cette époque-là, l'argent ne coulait pas beaucoup. Et ils ont emmené Alain en Alsace, chez Opa et Oma. C'était les grands-parents pour nous élever, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et bon, on a grandi là-bas, on ne se posait pas de questions, c'était comme ça, voilà.
J'habitais chez une grand-mère qui ne parlait pas français, donc on écoutait la radio allemande.
Archives Radio Suisse Romande.
J'étais élevé avec de la musique de Johann Strauss, Kurt Weill.
Evelyne Ravida, cousine d'Alain Bachung.
Alain est arrivé à l'âge d'un an et demi chez Oma et Opa, à Wingersheim, en Alsace, et il est reparti après le CM2. Il devait avoir entre 11 ans et 12 ans. Hein.
Alain il parlait l'alsacien comme nous.
Robert Kessler.
On parlait que l'alsacien, on savait parler que l'alsacien. Je n'y avais plus Roger, il venait. Les vacances, c'était soit juillet, soit août, et il descendait de Paris en vélo, en tandem. Et il venait tous les ans, il venait en vacances chez les grands-parents. Geneviève, sa mère ne parlait pas alsacien, elle comprenait quelques mots, parce que c'est une langue très difficile, l'alsacien. Mais Alain, il ne parlait pas français, donc il pouvait pas, il se comprenait pas. C'est Roger qui faisait l'intermédiaire, ou la grand-mère, ou pas, il faisait le traducteur. Oui.
Est-ce que Alain, parce que vous étiez ses amis intimes, ses complices, ses cousins, parlait de ses parents en votre présence ou pas?
On n'avait pas à se soucier de ça parce que, bon, les parents nous ont mis là, hein, et puis voilà, point barre, c'était comme ça. Hein. Et on ne parlait pas de nos parents plus ou moins. Comme moi, je ne parlais pas de ma mère, lui, il ne parlait pas plus de Roger ni de Geneviève. On était là, et puis voilà, ça se passait comme ça. Hein.
« 205 rue de la Libération. On est à à Wingersheim. Qu'est-ce que c'est ?
Cette maison est incroyable.
Marc Besse, auteur de Bachung une vie, paru chez Albin Michel.
Pendant la guerre de 39-45, cette maison est devenue le réceptacle de tous les QG des armées qui ont traversé l'Alsace, de gauche de droite, de droite de gauche, de gauche de droite. Donc un coup les Allemands, la commandanto s'installe à Wingersheim, au 6 rue de la Libération. Et puis ben, quand les Allemands sont battus, c'est les Américains qui arrivent. Alors ben, les Américains ils disent mais ben, on va aller dans cette maison. Et donc en fait, cette maison est marquée, elle est le siège de l'histoire. Le 6 rue de la Libération, c'est aussi pour Bachung la seule maison familiale. Ses parents vivant à Paris et puis sa famille qui l'éduque, c'est-à-dire sa grand-mère, son grand-père, et les différents oncles qui habitent aux alentours et cousins. C'est le moment où il développe son univers, ses choses à lui. Après, à chacun d'en constater les résurgences, d'en identifier les... Les esprits dans le répertoire d'Alain, mais tout est là, tout est là. Cette maison est là, tout le temps. Alsace Blues en est le plus grand exemple. Quand il dit, fallait pas que je parle aux Lévis d'en face, la charcuterie des Lévis existe bel et bien. À l'heure où on parle, elle existe encore, elle sera très certainement détruite bientôt parce que le commerce a été déserté, mais elle est encore visible. Il y a... Tout ce blues de la rue de la Libération qui existe à travers les premiers disques de Bachung de manière plus ou moins évidente ou affirmée. Mais tout est là, tout est là.
Je suis né tout seul près de la frontière, celle qui vous faisait si peur hier. Dans mon coin, on faisait pas de marmots, la cigogne faisait tout le boulot. C'est pas facile d'être de nulle part, d'être le bébé fan de Mazar. Hey Gypsy, t'as plus de veine que moi, le blues il sent bon dans ta voix. Alsace Blues, Alsace Blues, ça m'amuse. Va falloir que je recouse. Elsa encore un verre de Sylvaner pour graisser le rocking chair de grand-mère. Mets ton papillon noir sur la tête, je te ferai un câlin ce soir après la fête. Faut pas que je parle aux Lévis d'en face, mais mes mains dit reste à ta place. Hey Gypsy, j'aurai pas mon bac, je ferai jamais la carrière de Bismarck. Alsace Blues, Alsace Blues, ça m'amuse. Va falloir que je recousse. Oh. Alsace Blues, ça m'amuse. Va falloir que je recousse. Va falloir falloir que je recours.
Bachung.
Bachung.
De l'aube à l'aube.
Aujourd'hui, histoire de famille.
Il parlait de son enfance par bribes.
Boris Bergman, parolier.
C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai fait le Elsass Blues, il m'a rien dit avant la chanson. Une fois que le texte était terminé, là, il m'a appris des choses. Il parlait d'adoption, il me disait que sa faiblesse à lui, sa difficulté quelquefois à affronter les gens de face, etc., venait de cette espèce de, voilà, de la non-présence d'un père. Voilà, c'est vrai qu'il m'en a parlé par petits bouts, il m'a... Tout ça, j'ai appris ça, mais bien après, quoi.
Archives Radio-Canada.
J'écoutais la radio en Alsace, je crois que ça me touchait plus que peut-être la poésie, ou quoi que la poésie me touchait, mais c'était la musique qui venait plus directement dans ma tête. Et puis, je sais pas, c'est pas seulement une histoire d'aimer la musique. Je me souviens d'un... J'habitais dans un petit village et il y avait un oncle, un jour, je ne sais plus, enfin, qui avait oublié un violon. Et ce violon est resté sur une armoire. Et moi, je regardais ce violon et je n'avais pas le droit d'y toucher. Et peut-être que le fait d'avoir aussi été frustré ou que je n'ai pas eu le droit de toucher à ce violon a aiguisé mon envie de faire de la musique. Parce que ce n'est pas seulement peut-être le fait qu'on reçoit comme ça quelque chose et qu'on aime, mais aussi le manque. Le fait qu'on vous a interdit à un moment donné quelque chose qui m'a peut-être donné envie aussi de faire de la musique.
Marc Bess, biographe.
Il y a une tradition en Alsace qui consiste à ce que dans la transmission de génération en génération, un instrument de musique soit légué aux générations futures comme marque du lien entre les familles. Et il se trouve qu'en Alsace, le violon fait partie des instruments forts, traditionnels, basiques, qui est légué par le père à son fils pour matérialiser cette transmission. Alors, le jeune Alain Bachung a visé le violon et sa grand-mère lui a interdit d'y toucher. Alain en a super souffert de ça. N'étant pas de la famille, il ne le savait pas encore, mais il n'avait aucun espoir de toucher le violon un jour. Et c'est son cousin Robert qui finalement a hérité du violon pour matérialiser finalement que la branche généalogique devait se continuer de son côté. Roger Bachung savait, Roger Bachung, donc son père, savait que Alain n'aurait jamais le droit de toucher le violon. Quel a été son premier réflexe quand Alain a eu 5 ans? C'est de lui offrir un harmonica. Évidemment, on voit tous très bien le truc. Tu ne peux pas toucher au violon, je vais t'offrir un harmonica.
Ah ben c'est le premier cadeau qu'on m'a fait à Noël une fois, je crois. Je parle pas de la mandarine, hein, parce que c'était des cadeaux très, très humbles.
Archives Radio France.
Et l'harmonica, je crois que c'est le premier... Oui, c'est un des premiers cadeaux à Noël. Alors, c'était facile de s'en servir. Il ne fallait pas forcément sortir du conservatoire. Hein, donc
C'est un instrument que vous aimez beaucoup?
Oui, j'aime beaucoup. Et puis, je suis pas un virtuose de ça, mais je joue d'une certaine manière. Et ça me déplaît pas, parce que c'est à la fois naïf et puis en équilibre. Mais c'est souvent un moyen de communiquer avec les autres musiciens.
Thank you.
Oui, Alain, il avait un harmonica. Bon, maintenant que vous le dites, je me rappelle qu'il avait son harmonica.
Robert Kessler, cousin d'Alain Bachung.
C'est un harmonica tout à fait simple qu'on avait à cette époque-là. On trouvait ça souvent dans les foires. Non, même pas, c'était pas les programmes, c'était des foires de village. Il y avait toujours un gars qui vendait des sucettes et des caramels. Et puis, il avait donc des petits harmonicas comme ça. Et Alain, il avait ça, je crois qu'il dormait avec même. Son harmonica. Il devait dormir avec parce qu'il jouait tout le temps avec ça. Et il se débrouillait très bien déjà à cette époque-là. C'est Roger qui lui a offert cette harmonica-là. Et c'était son jouet préféré d'ailleurs.
Il avait quel âge Alain?
Il avait 6. Oui, 5-6 ans maximum. Hein.
Et qu'est-ce qu'il jouait avec cette harmonica?
Ben, il avait déjà des mélodies de blues, un genre américain, des trucs comme ça. Déjà, à cette époque-là, il avait déjà l'oreille assez évoluée vis-à-vis de nous. On n'avait pas, lui, il avait déjà le petit truc que nous, on n'avait pas. Hein. Il avait déjà le fibre de musique, déjà.
S'il jouait des musiques américaines, il les avait entendues où?
Ben, je pense qu'il a entendu ça. Parce qu'après-guerre, il y avait plein de trucs comme des Américains qu'ils avaient oubliés, qu'ils avaient laissés parce que, bon, ils en avaient un stock. Je pense qu'on avait, je ne sais pas si on n'avait pas un vieux, il me semble qu'il y en avait un vieux tourne-disque, comment qu'on appelle ça avec
un
gramophone, voilà. Et il y en avait un, et je pense qu'il a dû entendre ça là-dessus.
Il y avait donc un gramophone et des disques que les Américains avaient laissés sur place.
Je vois pas autrement comment qu'il pouvait arriver là, à la maison, parce que Opa était pas plus la musique. Oma, pas non plus, pas la même musique non plus. Elle avait plus de musique classique, le machin américain. Et ce truc-là, il était dans la. Dans Schwartz, comment?
Oui, dans la pièce noire.
Dans la pièce noire?
Oui, il était dans la pièce noire.
C'est quoi la pièce noire?
La pièce noire, on appelait ça où que les Américains faisaient leur popote. Ils avaient, voilà. C'était assez grand. Et à l'entrée, je vois encore ce gramophone avec le grand truc là qui était dessus. Mmh. Et je pense que c'était des disques que les Américains ont dû laisser dans le coin. Parce que les Américains, ils avaient s'amuser comme tout le monde. Hein. Mmh. Et je pense que de là, la musique l'a marqué. Je pense que c'est à partir de là.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes
two. Ma grand-mère un jour est arrivée dans le salon. Elle avait entendu « Rock around the clock », je crois. Et puis elle me fait, avec les mains au ciel comme ça, elle me fait « Ils ont inventé le rock'n'roll !» Comme si elle disait « Ils ont inventé la bombe atomique, quoi !»
Archives Radio France.
Vous savez, c'était la campagne.
Oui.
Donc pour que ça prenne des allures plus importantes, il fallait attendre un petit peu encore. Mais c'est rentré là, dans la tête, ça n'est plus jamais sorti.
Oui.
Parce que c'était, d'un seul coup, on pouvait vivre, respirer, enfin, être fou, enfin...
Time love will be alright.
Bachung. De l'aube à l'aube. Sur France Inter.
Aujourd'hui, histoire de famille.
Richard Kessler, cousin d'Alain Bachung.
Je me rappelle une journée avec Alain où je le voyais dans la chambre avec le micro. Je ne sais pas si c'était un micro réel. Et sa guitare. Sa guitare offerte par Rocher, son père. Il jouait de la guitare et nous, il fallait filmer. Dans le temps, c'était des pitons en métal. Et il a percé un trou et il fallait filmer. Mais moi, en tant qu'Alsacien, j'étais là comme un poteau. Alors il a déposé sa guitare et il m'a pas engueulé, mais il a dit, écoute, il faut boucher. Tu filmes là, tu filmes là, tu filmes là, tu fais comme Alain. Et puis après, mince, il m'engueule. Alors là, on a bouché et puis lui, il était là sur ce truc et il jouait la guitare. Il chantait une chanson.
Marc Bess, biographe de Bachung.
Je crois qu'il devait avoir une petite dizaine d'années la première fois où Alain a entendu ce terme de bâtard.
En fait, je suis un bâtard. Je crois que je suis un bâtard, en fait. Je suis un bâtard. Je suis un bâtard. Bâtard. En fait. Bâtard.
Alors effectivement, un jour, j'étais avec Alain en Alsace.
Alain Jean, cousin d'Alain Bachung.
Dans la maison de la grand-mère, il y avait une chambre qu'on avait squattée entre guillemets. C'est une chambre qui, à l'époque, du temps de la guerre, servait de prison puisqu'elle avait des barreaux aux fenêtres. Et dans cette chambre, Alain jouait de la guitare et moi, je jouais de la batterie. Et c'était entre une pause entre deux morceaux de musique. Et moi, je le savais, ce que ma mère me l'avait dit. Et elle m'avait dit surtout, tu ne répètes pas. C'est ma mère qui m'a appris qu'effectivement, Roger n'était pas le père d'Alain. Et entre deux morceaux de musique, Alain me dit, dis donc, j'ai appris que Roger n'était pas mon père. Est-ce que c'est vrai? Alors comme j'obéissais à ma mère, et je lui dis, bon non, pas du tout, je ne suis pas au courant, je ne sais pas qui te l'a dit. Et il a dévoyé la question et je n'ai jamais su qui a dit à Alain, Roger n'est pas ton père. Je ne sais pas qui a pu lui dire. Et moi, je dis, mais non, je dis, mais attends, Alain, non, tu te fais disais, Roger, c'est ton père. Je n'ai pas voulu envenimer, si vous voulez, une certaine situation, quoi. Mais je n'ai jamais su qui a pu dire à Alain qu'effectivement, Roger n'était pas son père. Je ne sais pas.
Marc Bess.
Ce qui a beaucoup blessé Alain, c'est pas forcément que son père ne soit pas son vrai père. C'est de ne pas l'apprendre par la bouche des principaux intéressés. C'est-à-dire sa mère et son père, son beau-père. C'est peut-être, si on doit chercher la fameuse fracture, c'est peut-être là qu'on doit la chercher, dans la manière d'avoir appris les choses.
Ben, moi, je n'ai pas discuté de ça avec Alain, mais enfin, j'imagine assez bien que ça a dû être très dur pour lui.
Evelyne Ravida, cousine d'Alain Bachung.
Je pense que Alain, il a dû se sentir trahi, sans aucun doute. Et puis, vous savez, quand on pose la question, alors, qui est mon père? Voilà. Eh bien, en général, on attend une réponse. Alors, la réponse, c'était pas possible de la donner. Pour sa mère.
Pourquoi pas pour sa mère?
C'était trop difficile pour elle. C'était un traumatisme et c'était pas possible pour elle d'aller au-delà. Donc elle ne pouvait pas en parler à son fils. Et je pense qu'effectivement, Alain a dû être extrêmement malheureux de ça, oui.
Le mystère quant à l'origine du père d'Alain Bachung reste donc entier. Voici deux pistes, l'une proposée par Evelyne Ravida, cousine d'Alain Bachung, l'autre par Chantal Monterastelli, ex-épouse du chanteur.
Evelyne Ravida.
C'est une information, cette information de l'origine d'Alain qui a émané des recherches que j'ai faites, puisque j'ai lu toute la correspondance de Geneviève, sa mère, J'ai regardé les photos, bien sûr, etc. Et bon, c'est vrai que ça nous est apparu assez évident qu'elle ne pouvait en tout cas pas lui donner le nom du père. Alors bon, maintenant, moi, les circonstances de sa conception, je ne les connais pas précisément, mais il semblerait qu'elles soient absolument dramatiques, ça c'est clair. Et pour Geneviève, il est évident que c'est quelque chose qu'elle n'a pas dépassé.
Chantal Monterastelli, deuxième épouse d'Alain Bachung.
J'ai su, des années plus tard, par la marraine d'Alain, qui est décédée maintenant, et qui était une amie d'usine de sa mère, puisque la mère d'Alain travaillait en usine. Et cette femme m'a donné le nom du père d'Alain, de son géniteur, c'est-à-dire de l'Algérien qui était dans l'usine, qui a travaillé quelques mois, qui avait une famille là-bas, et qui est parti. J'avais son nom. J'ai dit à Alain un jour, j'ai le nom de ton père. Le jour où tu veux le savoir, tu me demandes, je te le donne. Il ne l'a jamais demandé. Jamais.
Dieu seul le sait qui est le père d'Alain Bachung.
Marc Besse, biographe.
Alain lui-même n'a jamais eu qu'une information là-dessus. Je pense que dans la naissance artistique d'Alain Bachung, cette sensation d'avoir été rescapé de l'avortement, puisque sa mère ne le voulait pas, et qu'elle avait essayé de faire qu'il ne naisse pas. Dans sa naissance artistique, il y a quelque chose de magique là-dedans, et qu'on retrouve tout au long de sa vie, finalement. Une certaine faculté à tordre le cou, au sort, aux volontés, une certaine manière de montrer qu'il y a une destinée au-delà des destins organisés. On n'organise pas la subsistance, la vie, de manière arbitraire, de naître à se construire. Et Bachung montre ça. On ne naît pas sous de tels auspices négatifs, sombres, mortifères, sans développer quelque chose de supérieur pour arriver à s'en sortir.
Les chansons d'Alain, c'est un petit peu des chansons à tiroir.
Evelyne Ravida.
Alors, on ouvre un tiroir, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, c'est pas si facile que ça à décrypter. Et chacun y met un petit peu ce qu'il veut. Nous, évidemment, nous sommes de sa famille. Donc, évidemment, nous y mettons beaucoup de notre histoire personnelle avec Alain. C'est notre interprétation aussi. Mais en tout cas, moi, il y a beaucoup de chansons qui me font penser à sa mère. Et une des plus récentes, c'est Mes bras. Je trouve que ça a été écrit pour sa mère, oui.
J'étais censé t'étourdir. Sans aviron, sans élixir. J'étais censé te soustraire à la glu. Les impasses, les grands espaces. Mes bras connaissent une étoile sur le point de s'éteindre. J'étais censé te ravir à la colère de Dieu. La douceur d'un blindé, le remède à l'oubli, mes bras connaissent la menace du futur, les délices qu'on ampute
pour l'amour d'une connasse. J'étais censé t'encenser, mes hélices se sont lassées de te porter au nu. Je me tue à te dire qu'on ne va pas mourir. Sauve-toi, sauve-moi. Et tu sauras où l'acheter le courage. J'étais censé t'étourdir, sans aviron, sans élixir. J'étais censé te couvrir à l'approche des cyclones. Mes bras connaissent, mes bras connaissent sur le bout des doigts. La promesse d'un instant, la descente aux enfers. Mes bras connaissent, mes bras mesurent la distance. Sauve-toi, sauve-moi, et tu sauras où l'acheter le courage. Sans élixir, j'étais censé t'extraire le pieu dans le cœur qui t'empêche de courir. Mes bras connaissent, mes bras connaissent une étoile sur le point de s'éteindre.
Bachung. De l'aube à l'aube. France Inter.
Aujourd'hui, histoire de famille.
Robert Kessler, cousin d'Alain Bachung.
Alain est reparti à Paris vers 12-13 ans à peu près. Et c'est là qu'il s'est lancé un peu dans la musique parce que l'école, c'était pas trop son fort, mais la musique, il aimait bien. Alain, je pense pas qu'il était au début porté carrément sur la musique. Il avait le rythme dans la peau, ça c'est certain, mais il pensait pas devenir chanteur comme il est devenu après. Les aléas ont voulu que quand il est reparti après dans la région parisienne, il a dû rencontrer des copains, des potes comme on disait à cette époque-là, et c'est là qu'il a su se perfectionner avec des gars qui étaient aussi forts que lui, même plus forts, mais lui il avait vite compris qu'il y avait quelque chose à tirer.
Marc Bess, biographe de Bachung.
Quand il revient à Paris, Alain Bachung est confronté à deux choses. Il a 12-13 ans et il y a un problème fondamental avec sa famille qui est une famille de tradition ouvrière qui n'a pas forcément les moyens de satisfaire les exigences d'un gamin qui a envie de découvrir le rock'n'roll dans la ville parisienne. Ou la vie du spectacle, la vie de la musique. Et on est vraiment dans une tradition ouvrière et
Il a une grande chance dans cette histoire, c'est que il a une marraine qui s'appelle André, André l'aîné, qui est peut-être la bonne âme qui l'a toujours veillé depuis le premier jour de sa naissance. Et quand il revient à Paris, elle va veiller à sa deuxième naissance en tant qu'adolescent. Et ses parents n'ont pas les moyens de l'amener au concert, les moyens de l'amener aux choses dont il a envie. C'est André l'aîné, sa marraine, qui, elle, à une situation plus aisée qui va lui permettre de vivre à l'intérieur de Paris une vie que Alain Bachung n'aurait jamais imaginée. Et elle l'amène au concert d'Edith Piaf, elle l'amène au concert de Gene Vincent pour une simple et bonne raison, c'est que déjà elle aime ça, et que deuxièmement elle connaît intimement un cadreur de la télévision qui s'occupe des shows d'Henri Salvador à l'ORTF.
She's the gal in red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so sweet. Bebop-a-doodle, she's my baby. Bebop-a-doodle, don't mean baby. Bebop-a-doodle, she's my baby. Let's rock.
Aujourd'hui encore, si vous écoutez Bebop Lola, vous avez un frisson ?
Ah, je peux pas.
Vous pouvez pas ?
Non, j'ai trop d'émotions.
Archive Radio France.
Je l'entendais comme s'il racontait tous nos tourments, tout, d'adolescent. Et puis en même temps, il chantait des mots très simples. Hein. Mais comme c'était en anglais, on comprenait pas tout, on s'imaginait plein de trucs. Et en fait, c'est peut-être ça qui a déclenché à un moment donné le fait d'écrire des choses. C'est tout ce que je ne comprenais pas et que j'essayais de raconter avec des images ou mélangées avec des impressions. Enfin.
André Georget, musicien et ami d'enfance d'Alain Bachung.
J'ai rencontré Alain au lycée Bellefeuille à Paris. Je pouvais partager ma passion avec un garçon qui avait la même. On s'entendait très bien. Évidemment, on avait quelquefois des avis contraires. Moi, je suis pas totalement à l'époque comme lui, dans le rockabilly, dans le country. Il est là-dedans, lui. Il est à fond là-dedans, il aime bien. Il a des références rock, Buddy Holly, que je découvre, que c'est lui qui me le fait découvrir. Et là, je tombe par terre, parce que Buddy Holly, c'est quand même fabuleux. Toute cette période 63, 64, 65, il a monté un groupe avec Mick Larry, qui était dans le lycée aussi, les Dunces. Et donc, ils ont fait pas mal de concerts, à Royan surtout, et à Boulogne évidemment, puisque Alain était originaire de Boulogne. Boulogne-sur-Seine, hein, Boulogne-Billancourt. Et cette période, on travaille néanmoins ensemble à essayer de trouver des compositions en vue de signature de contrat, d'une maison de disque, ce qui était relativement simple à l'époque quand même.
Archive Radio France.
Je vivais dans un milieu modeste, donc il fallait que j'ai un job concret, donc très vite, je me suis retrouvé dans une école commerciale. J'apprenais la comptabilité, le droit commercial anglais, et je me suis aperçu un jour que j'étais vraiment pas fait pour ça, quoi. Donc, je préférais mourir et vivre 3 mois vraiment bien, quoi.
Alors, vous êtes parti.
Oui, ouais, j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai arrêté l'école et puis j'avais trouvé un petit job. Avec un groupe, on tournait dans des bases américaines. Il y avait des bases américaines en France à l'époque de l'OTAN. Donc je chantais un mois dans chaque base. Et on gagnait notre vie comme ça. En fait, j'étais arrivé à un stade aussi où je voyais que j'avais rien à perdre. Je savais la vie que j'allais avoir à peu près.
Et je crois que je serais mort depuis si j'avais vécu une espèce de vie peut-être plus tranquille, mais avec le seul souci de trouver une place pour se garer le matin en arrivant au boulot et être tellement heureux toute la journée parce que j'ai pas eu de PV. J'admire les gens qui peuvent vivre comme ça sans être malheureux, totalement. Moi, je crois que je me serais suicidé, vraiment.
Oui.
J'ai préféré prendre des risques, vraiment.
De l'aube à l'aube, sur France Inter.
Aujourd'hui, histoire de famille.
Je vois encore l'image sur le journal, était marqué « Bachung rompt les ponts avec sa famille ».
Richard Kessler, cousin d'Alain Bachung.
C'était horrible à voir dans le journal. Et puis, l'intérieur du texte, on voyait Alain, la photo d'Alain, et tout le récité qu'il a fait, il rompt les ponts avec la famille. Et je vois encore tonton Rocher, son père, et Maria, qui discutaient à Mittelschäfer-Zeitung, chez ma mère, chez la tante Fine, ils ont discuté sur ce paragraphe-là, et ça ne devait pas sortir entre nous, les enfants, et puis quand nous, on était là, ils ont arrêté la conversation, mais on écoutait quand même, on était déjà un petit peu plus adultes, mais ça, indirectement, ça ne vous regarde pas, c'est nous. Vous voyez, ils nous ont caché la vérité, même en étant adultes, les parents nous ont caché la vérité.
cette dureté de rupture avec sa famille, avec ses parents.
Jean Fauque, ami d'Alain Bachung.
J'étais là, on revenait du Midem en 77 avec une vieille bagnole qui est tombée en panne. En janvier, il faisait très froid et on s'est retrouvés quand sa mère est morte le soir où il a appris. On s'est retrouvés, la voiture qui a fini 10 km en roue libre. Plus de lumière, plus de moteur, plus rien. À Auxerre, banlieue au sud d'Auxerre, dans les faubourgs. On s'est retrouvés dans un petit hôtel. 1h du mat, tout était fermé. Comme une lumière, c'est comme une oasis en plein froid. Ils ont commencé à se cailler, vu qu'il n'y avait plus de chauffage dans la bagnole. Et il y a un gars, on n'avait pas mangé, il nous dit, bah, je vais vous faire les sandwichs. Puis on dit, monsieur, vous savez pas s'il y a un hôtel dans le coin, le mec il dit, je fais hôtel. Et on se retrouve dans une piole, papier à fleurs et tout. Et puis à un moment, il appelle chez lui, à Saint-Cloud, il appelle sa femme et elle y apprend la nouvelle. Mais on s'est retrouvés près de chez sa marraine, pour qui il avait beaucoup d'affection. J'ai juste perçu que c'était assez compliqué.
Evelyne Ravida, cousine d'Alain Bachung.
Bah, sa mère est morte d'une cirrhose au foie. Donc vous imaginez, hein, elle était très en souffrance, cette femme. Et à partir du décès de sa mère, elle a rompu complètement avec sa famille, avec tous ses amis d'enfance. Il a vraiment coupé tous les ponts. Il a jeté le bébé, l'eau du bain, voilà.
Sans vous dire pourquoi ?
Ah, sans nous dire quoi que ce soit. À qui que ce soit d'ailleurs. Il n'est pas venu à l'enterrement de sa mère. À partir du décès de sa mère, du jour où elle est morte, il a décidé de faire table rase du passé. C'est ce qu'il a dit à sa marraine. C'était pas sa vraie marraine, mais enfin une femme qui restait la seule proche de lui jusque vers l'an 2000. Il lui a dit, j'ai fait table rase du passé. Seulement, est-ce que on peut faire table rase de son passé, voilà. Et je crois surtout que cette façon de faire table rase du passé, c'est aussi une façon de garder sa souffrance en bocal et de penser qu'en la gardant en bocal, on va s'en protéger. Et en fait, il s'en est pas protégé du tout, bien au contraire. Et je pense que son œuvre montre tout du long qu'il cherche une femme. Alors maintenant, laquelle? Je vous laisse deviner. Moi, mon avis, c'est qu'il cherche sa mère, du début à la fin. Et que, les autres femmes lui ont servi de support pour pouvoir avancer. Alors, c'est peut-être un peu difficile de dire ça pour elles. Elles seront peut-être très frustrées que je tienne ces propos. J'ai ceci dit beaucoup de respect pour elles toutes. Hein. Mais je pense que la mère d'Alain était la femme qu'il cherchait. Et avec qui il a complètement raté le rendez-vous.
Je vais me faire la peau, je me tirerai la chasse d'eau dans les WC de mon petit studio. C'est pas facile, facile de se foutre en l'air. C'est pour les riches et ça m'y fait. La roulette russe est complètement idiot quand on peut mourir d'un coup de chasse d'eau. Je fume pour oublier que tu bois. Je fais comme chez moi, j'envoie la fumée sur un poster de toi. La vie c'est comme une onde douce, tu prends tout de suite, tu en crèves vite. Et si tu ne prends pas, c'est la vie qui t'attend. Je suis bien, bien, très bien dans mon KGB. Y a des journaux, alors je les lis. Qui disent que le bonheur, c'est peut-être qu'un bobard. Je m'en fous, j'attendrai pas la fin de mon histoire. Je fume pour oublier que tu bois. Je
je renvoie la fumée sur un poster de toi. La vie c'est comme une overdose. Tu prends tout tout de suite, tu en crèves vite. Et si tu ne prends pas, c'est la vie qui tape. Oui, mais pour la tarte aux pommes, deux ou trois golden, un petit verre de rhum, un bâton de cannelle. Rouler, rouler bien la pâte, introduire dans l'âtre, ça me coûte goutte à goutte, goutte à goutte, goutte.
De l'aube à l'aube. Une émission de Gérard Sutter et David Golan.
Une production de la Radio Suisse Romande pour les radios francophones publiques réalisée avec la collaboration de Joël Mottier, Mélanie Croubalian et Ralph Dallet.
Bachung, premier épisode du feuilleton des radios francophones publiques. Bonne nouvelle, le feuilleton est à suivre sur France Inter jusqu'au 12 août prochain.